J'aimerais parler sur la traversée du désert. Dans Exode chapitre 16 et le verset 1, il est écrit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. Le désert. Il nous arrive tous de traverser un désert plus ou moins long, plus ou moins difficile, mais nous savons que le désert, c'est pas agréable. Il fait chaud, il n'y a pas d'eau, souvent on souffre de la soif, de la faim, le désert c'est long. Et dans le plan spirituel, nous passons par des formes de désert où parfois il nous semble que on tourne en rond, que Dieu n'entend pas nos prières, que Dieu n'agit pas. Et puis les paysages sont monotones, vous voyez, dans un désert, chaque jour c'est un petit peu la même chose, on a l'impression qu'on n'en sortira pas. Il n'y a pas tellement de paysages différents et variés, c'est toujours un petit peu la même problématique. Et puis il y a des tempêtes de sable, il y a d'autres difficultés qui viennent dans les déserts. Mais j'aimerais voir avec vous trois éléments par lesquels le peuple d'Israël est passé pour vous montrer que Dieu ne nous abandonne pas dans le désert, mais qu'il a encore un plan pour nous. Le premier élément, c'est la manne, c'est ce qu'on a lu dans Exode chapitre 16. Dieu a prévu la nourriture nécessaire. Le deuxième élément, ça sera l'eau qui vient du rocher. On verra ça tout à l'heure. Et le troisième élément, c'est le serpent d'airain qui va guérir les maladies. Alors, la manne, on la trouve dans Exode chapitre 16, verset 1 et suivant, jusqu'au verset 4. Et on voit très bien dans ce passage que le peuple qui est sorti d'Égypte la main levée, c'est-à-dire avec un esprit de victoire et en triomphant. Les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent pour qu'ils quittent au plus vite l'Égypte. Il y avait une grande joie, ils ont traversé la mer Rouge. La mer s'est refermée sur les cavaliers, sur l'armée d'Égypte qui les poursuivait à travers la mer Rouge qui s'était ouverte. Elle s'est refermée sur eux et à la sortie de la mer Rouge, eh bien, ils ont éclaté. En louange et en triomphe, il y avait Marie qui menait les chants. Marie, la mère, plutôt la sœur de Moïse. Il y avait donc des danses. Elle jouait du tambourin. Il y avait de la fête. C'était la sortie d'Égypte. Et puis là, on est quelques temps après. Voyez, Exode 16. Quelques chapitres après la sortie d'Égypte. On est vraiment dans le désert. Et c'est dans le désert que va se situer maintenant l'épreuve de la foi. Est-ce que nous allons continuer à louer le Seigneur dans le désert? Est-ce que nous allons garder la foi dans le désert? Ou est-ce que nous allons commencer à changer d'attitude? Et on va voir que le peuple va vraiment changer d'attitude par rapport à Dieu, par rapport à Moïse, par rapport à Aaron. Le désert, ça nous arrive à tous, c'est inconfortable. Mais regardez 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Chaque épreuve qui est permise par Dieu et pour notre bien, et Dieu veut en faire sortir quelque chose de bon. C'est là ce qui fait votre joie, dit Pierre. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Remarquez qu'il est dit, vous allez être attristés, mais pour peu de temps. Donc le temps pour Dieu, c'est aussi un outil pour nous façonner. Pour peu de temps. Alors c'est vrai que nous, on a l'impression que c'est long, mais en réalité, c'est peu de temps. Et dans ce peu de temps, il y a l'épreuve de la foi. Et dans cette épreuve de la foi, donc nous sommes dans le désert, nous voyons bien que les choses n'avancent pas comme nous voudrions. Quand le peuple est là dans le désert, normalement, ils sont censés aller dans le pays de Canaan, mais ils sont dans le désert. Et donc là, c'est pas facile. Mais c'est dans le désert qu'il nous faut continuer à faire confiance à Dieu. Alors, comment réagit le peuple? Regardez au verset 2. Ça commence avec les murmures. Verset 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. Les murmures. Les murmures contre Moïse et les murmures contre Aaron, les serviteurs de Dieu. Savez-vous comment les chrétiens de Corinthe, ils parlaient de l'apôtre Paul? C'était pas gentil. Il disait, ses lettres sont sévères, mais présent en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de mépriser un serviteur de Dieu. Exactement comme le peuple dans le désert, il méprisait Moïse et Aaron. Mépris. Or, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14, et ça c'est pour nous chrétiens, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Sans murmure. Donc c'est quelque chose que nous devons éradiquer de notre vocabulaire, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui est l'expression de la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ces murmures vont être, en fait, contre-productifs et vont amener des difficultés supplémentaires sur le peuple qui est déjà dans le désert. Donc, les murmures, voilà la mauvaise réaction. Deuxième réaction, ils commencent à regretter le passé. Ça, c'est une autre mauvaise réaction. En disant, au moins en Égypte, on avait des pots de viande. Au moins en Égypte, on avait du pain. Au moins en Égypte, on était dans l'abondance. Tandis que là, dans le désert, voilà. Alors, c'est vrai que il faut pas s'habituer à regarder toujours en arrière, toujours le passé. Surtout quand on voit le passé positif, alors qu'ils étaient dans l'esclavage, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans l'humiliation, ils voulaient tous sortir d'Égypte. Et maintenant, ils regrettent leur esclavage. Il y a quelqu'un qui a dit « Les chrétiens ont la tête mal vissée, ils regardent toujours en arrière. » Alors, il faut toujours regarder devant. Un rétroviseur, c'est toujours utile pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, on doit avoir les yeux fixés devant. Et pas regarder tout le temps. C'était mieux avant. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais libre. Je pouvais faire ce que je voulais. Maintenant, il faut que j'aille à l'église. Bref, on a une mauvaise vision. On regarde toujours en arrière et on regarde mal. Mais il faut se rappeler d'où on vient. On était dans le péché, c'est comme l'esclavage en Égypte. Paul dit qu'on était enfant de colère, qu'on était rebelle à Dieu, on était sans Dieu, sans espérance dans le monde. Voilà où on était. Donc on ne peut pas regretter le passé quand on était dans l'esclavage. Or, nous devons regarder de l'avant et nous attendre au retour de Jésus qui est pour bientôt. Et se préparer dans la foi, dans la prière. Voilà notre vision, voilà notre espérance. C'est le témoignage. Qu'est-ce que dit la Bible? Soyez d'être des témoins, vous serez des témoins. Parler du Seigneur et nous attendre à son retour, c'est la vision. Et on regarde devant. Parce que Paul, quand il dit « je cours vers le but », est-ce que vous avez déjà essayé de courir en regardant derrière vous? S'il y a un poteau, vous courez, paf, vous prenez le poteau. Et quand Paul dit « je cours vers le but », vous croyez qu'il regarde derrière? Au contraire, elle dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours ». Vous ne pouvez pas courir si vous regardez tout le temps derrière vous, si vous regrettez tout le temps votre passé, comme ici le peuple, il y avait de la viande en Égypte, il y avait du pain en Égypte, bref, ils se plaignent de leurs conditions, alors que c'était bien la volonté de Dieu qu'ils sortent de l'Égypte. Donc nous ne devons pas regretter notre passé quand on était dans l'esclavage, nous ne devons pas murmurer contre les serviteurs de Dieu. Et troisième élément qu'on trouve dans l'attitude du peuple, c'est une mauvaise vision de Dieu. Quand ils disent au verset 3, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Est-ce que vous pensez que la volonté de Dieu, c'était que de sa main, il détruise tout le peuple ? C'est ce qu'ils sont en train de dire. « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel ?» Est-ce que Dieu voulait faire mourir son peuple ? Non. Donc, leur vision est faussée. Pourquoi ? Parce que quand notre cœur est éloigné de Dieu, nous attribuons à Dieu des choses mauvaises, des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu ni dans ses intentions. Ça me fait penser au fils aîné. Vous savez, de la parabole, il y a deux fils. Le plus jeune est parti, il a dépensé tout l'argent dans la débauche. Il s'est humilié, il s'est repenti, il est revenu vers son père. Il y a eu une fête organisée. Et puis, quand on regarde le deuxième, il voit d'un mauvais œil le retour de son frère. Mais c'est pareil. En fait, il va attribuer au père des mauvaises intentions. Il répondit à son père, parce que son père lui dit, « Mais toi, tu te réjouis pas, alors que ton fils qui était perdu, il est revenu. Voici, dit-il, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec ses amis, avec mes amis. » Qu'est-ce qu'est en train d'exprimer ce fils? Il dit à son père, il est dur, c'est un maître dur, je l'ai servi. Il ne le voit pas comme un père qui aime ses enfants. Il a développé une image d'un père qui est un maître dur, qui le sanctionne, qui le contraint, qui le fait souffrir, qui ne lui donne pas la possibilité de faire la fête avec ses chevreaux, avec ses amis. Voilà l'image de Dieu qu'un croyant légaliste va développer parce qu'il ne va pas en fait développer une bonne image de Dieu à cause de ses raisonnements. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu vous veut du mal? Est-ce que vous pensez que Dieu aime vous faire souffrir? Est-ce que vous pensez que Dieu vous en veut de quelque chose et a permis toutes ces situations pour vous punir, pour vous faire souffrir? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre vision de Dieu va générer soit des plaintes et des murmures ici comme le peuple, ou comme le fils qui était resté à la maison, qui se plaignait de ce père, soit ça va générer des plaintes et des lamentations, soit, si vous avez une bonne vision, ça va générer de la louange et de l'adoration. Donc, vous comprenez que la vision que vous avez de Dieu va activer quelque chose en vous, soit pour le bien, la louange, l'adoration, soit pour les plaintes et les murmures. Donc, c'est très important de garder une bonne vision de Dieu dans le désert. Parce que si dans le désert, vous dites « c'est Dieu qui veut nous faire mourir, c'est Dieu qui nous a entraînés là, on aurait mieux fait de rester dans l'esclavage », bien votre vision de Dieu, en fait, génère vos murmures. La quatrième élément qu'on voit aussi dans ce texte, c'est une fausse idée des conducteurs de Dieu, Moïse et Aaron, puisqu'il dit « vous, donc en parlant à Moïse et Aaron, vous nous avez emmenés pour mourir au désert. » Donc c'est vous les responsables de la situation. Mais regardez un peu l'histoire, qui sont Moïse et qui sont Aaron? Ce sont des hommes que Dieu a choisis. Quand vous regardez le choix de Moïse, Moïse, ce n'était peut-être pas le premier choix qu'on aurait fait. Moïse, il avait quand même 80 ans quand il a été choisi. Mais Dieu a choisi Moïse. Et qui sommes-nous, nous, pour juger le choix de Dieu? Dieu a choisi Moïse. Dieu a choisi Aaron pour qu'il soit le sacrificateur. Ce n'est pas Moïse qui était le sacrificateur. Moïse était le conducteur du peuple. Mais Dieu a dit non, ce sera Aaron qui sera le souverain sacrificateur. Donc Dieu a établi des choix. Il a établi Marie comme prophétesse. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui lui a donné ce ministère. Donc Dieu a donné des dons à Moïse, il avait le don pour diriger. À Aaron, c'était pour tout ce qui était la conduite spirituelle, c'est-à-dire les sacrifices, le tabernacle, l'organisation des prières et de l'adoration qui revient à Dieu, tout ce qui concerne donc la maison de Dieu. Et puis, Marie lui était confiée l'aspect prophétique. Elle donnait des paroles inspirées de la part de Dieu. Mais en fait, qui sont-ils ces trois-là? C'est une grâce que Dieu a fait à chacun. Est-ce qu'il y en a un qui méritait plus que l'autre? En fait, si vous regardez leur vie, il n'y en a aucun qui méritait rien. Et eux, ils n'ont jamais même demandé. Moïse, au contraire, il disait « Non, j'ai la bouche et la langue embarrassées, on voit quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas y aller. » C'est une grâce. Dieu les a choisis et ils ont répondu à l'appel de Dieu. Mais ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas cherché à se retrouver là. C'est Dieu qui les a appelés, qui les a qualifiés et qui les a envoyés pour une mission. C'est pourquoi quand on a une idée fausse des conducteurs en disant « Mais vous là qui nous dirigez, vous nous emmenez mourir dans le désert », c'est qu'on n'a pas compris que ces conducteurs, en fait, ils y sont pour rien. C'est Dieu qui les a choisis, qui les a établis, c'est par grâce, et ils font tout simplement le travail que Dieu leur demande. Ils ont été oints et ils ont été qualifiés pour un service, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand on a une mauvaise vision des conducteurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur attribue des pensées mauvaises. Vous voulez nous faire du mal, vous nous emmenez mourir au désert. C'est une réaction charnelle. Donc, on le voit, ces quatre attitudes vont développer chez le peuple beaucoup de murmures, de critiques, de plaintes. On ne voit pas le peuple se réjouir, bénir Dieu. Et alors qu'il souffre de la faim, l'Éternel va pourvoir par la manne, c'est au verset 4. C'est pour ça que dans le désert, il y a toujours une solution. Et au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, on peut s'attendre à la grâce de Dieu et dire « Seigneur, merci de pourvoir ». Merci de nous donner le pain à manger. Et Dieu l'aurait fait. Et donc, il n'y avait pas besoin de tous ces murmures et toute cette agitation et toutes ces critiques. Donc, Jean chapitre 6, verset 48, Jésus nous donne une précision que la manne que Dieu a donnée, donc la manne c'est quoi? C'est le pain du ciel que Dieu a donné à Israël pendant les 40 ans du désert. Eh bien, Jésus dit dans Jean 6, 48, « Je suis, moi, le pain de vie, la vraie manne, c'est Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'était un pain temporel, c'était un pain provisoire. Mais il arrive un autre pain, c'est Jésus. Ici, c'est le pain qui descend du ciel. Jésus vient bien du ciel, il était dans le ciel, dans la gloire de Dieu avant de s'incarner, afin que celui qui en mange ne meure point. » Donc Dieu a nourri ce peuple dans le désert pendant 40 ans, mais c'était temporel, ça a disparu. La manne a disparu, mais il y a un autre pain qui est toujours accessible, c'est Jésus qui est le pain de Dieu, la vraie manne pour notre âme, et on peut s'en nourrir. Et j'allais dire, on peut s'en nourrir tous les jours. Tous les jours, vous pouvez prendre la parole de Dieu, prier le Seigneur, et laisser Jésus nourrir votre âme, votre cœur, vous nourrir de la parole et de ce pain vivant qui est Jésus-Christ. Et le peuple, il le faisait tous les jours. Sauf que il y a un jour, c'était le vendredi, ils avaient double ration pour le samedi, puisque le samedi, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher le pain dehors. Ils avaient déjà la double ration pour le lendemain. Donc, tous les jours, ils mangeaient du pain, y compris le samedi, sauf qu'ils n'avaient pas besoin d'aller le chercher ce jour-là. Et c'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, nous nourrir de la parole, nous nourrir de Christ. Matthieu 4:4, c'est Jésus qui parle. Il parle de cet autre pain, il a parlé de lui comme un pain, mais il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ce pain-là qu'il faut manger, c'est la nourriture de la parole, et c'est ça qui va nous donner la vie d'abondance, une solidité intérieure, une force spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et si on néglige, alors on dit « Ah, j'ai pas le temps, je lis pas, un jour, deux jours, après on le fait, après on oublie. » Eh bien, petit à petit, notre vie, en fait, elle est en train de s'étioler, de diminuer. Mais si on se rassasie du pain de la parole tous les jours, On a une force que le monde ne connaît pas. C'est la parole de Dieu en nous. La nourriture de cette terre, ben, elle aboutit toujours à la mort. Rien ne restera. Tout ce qu'on a mangé, tout ça, ça partira, c'est détruit. Il n'y a que le pain de Dieu, ce pain spirituel qui va se retrouver jusque dans la vie éternelle, parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons une espérance d'être pour toujours dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le peuple ne le réalisait pas, mais en fait, en se nourrissant de la manne, il avait accès spirituellement à une autre manne, c'est le pain de Dieu, ce pain qui soutient le cœur. Et c'est le sixième jour, donc ils avaient la double portion pour le lendemain. Et remarquez que le peuple, quand Dieu leur a dit, le vendredi, vous aurez donc double ration, c'est pas la peine d'aller chercher le samedi. Mais qu'est-ce qu'a fait le peuple? Ils sont allés chercher le samedi. Alors que Dieu leur avait dit non, c'est pas la peine d'aller chercher le samedi. Vous voyez, la désobéissance est vraiment attachée au plus profond du cœur humain. Et ils sont allés, ils n'ont rien trouvé. Ils sont allés pour rien. Non, Dieu avait dit, je vous donnerai, il fallait faire confiance à la parole de Dieu. Et nous, chrétiens, il nous faut faire confiance. Quand Dieu dit quelque chose, bien croyons-le, ne remettons pas en cause la parole de Dieu ou sa pensée, faisons-lui confiance et obéissons. Ça, c'est le premier élément, donc c'est la manne. Le deuxième, c'est dans Exode 17, un tout petit peu plus loin, verset 1. C'est maintenant le rocher frappé. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était pressé par la soif et murmurait contre Moïse et disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans la main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Le peuple, donc, maintenant, nous le trouvons pressé par la soif, ils ont soif. Et dans le désert, on sait qu'il n'y a pas de source d'eau facile, c'est compliqué. Et quand vous avez un peuple, on estime 3 millions de personnes, imaginez toute l'eau, la quantité d'eau, donc vous êtes vite déshydraté. Et évidemment, la réaction du peuple, c'est quoi? C'est les murmures. Les murmures, les gémissements, il n'y a pas d'eau, donne-nous à boire. Et ils sont dans la querelle. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, reprend cette histoire. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'examinateur. Ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes venus à la fin des siècles. Donc nous devons tirer des exemples de ce peuple d'Israël, qui constamment murmurait, se plaignait. Mais nous ne devons pas murmurer comme eux, ou nous plaindre de Dieu, ou nous plaindre des serviteurs de Dieu, ici comme Moïse, ils se plaignent de Moïse. Ils sont dans une situation où ils doivent apprendre à changer de mentalité, changer d'état d'esprit, faire confiance à Dieu, et ne pas constamment se plaindre. Alors Moïse est découragé par le peuple, au verset 4, « Que ferai-je ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Ce n'est pas facile d'avoir des responsabilités, ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Il était découragé. Il y a beaucoup d'ingratitude, des jugements difficiles. Et Moïse, il ne s'attendait pas à ça. C'est une de plus, en fait. Peut-être, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il a déjà accumulé pas mal de souffrances. Mais peut-être c'est votre cas, si vous avez été trahi, si on vous a humilié, on vous a rejeté, on vous a même lapidé, comme ici. Ils sont sur le point de le lapider. Vous vous demandez bien pourquoi. n'avait rien fait de mal, mais voilà, le peuple, en fait, il rejette tout son dévolu sur Moïse. Mais rappelez-vous que servir le Seigneur, c'est aussi une source de grande joie et de grande bénédiction. Et Moïse ne devait pas perdre de vue que l'Éternel est aussi celui qui rétribue et qui donne avec abondance. Alors, comme Paul, 1 Corinthiens 15-10, il faut nous rappeler ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et c'est une grâce que de pouvoir servir le Seigneur. Alors Paul sait qu'il est un apôtre, c'est par grâce. Certains l'ont dénigré, certains l'ont rejeté, peut-être on le fera pour vous. Mais ce n'est pas les gens qui décident de votre vie, c'est Dieu qui vous établit, c'est Dieu qui vous place au bon endroit. C'est Dieu qui a appelé Paul, c'est Dieu qui a appelé Moïse, qui les a qualifiés. Donc laissez-les, continuez votre chemin et servez le Seigneur de tout votre cœur. Paul n'a pas toujours eu des encouragements, mais il se confiait toujours en Dieu qui est sa force et qui était son soutien. À un moment, il dit « Mais tous m'ont abandonné », mais il continue en disant « Mais le Seigneur m'a fortifié ». Il avait toujours ce contact avec Dieu qui le fortifiait. Alors, dans le désert, il y avait une solution. Donc, ils étaient là pressés par la soif et Dieu dit « Tu vas frapper le rocher ». Et ce rocher, en fait, ce n'était pas un rocher ordinaire, mais dans le Nouveau Testament, on voit que c'était une image de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Déjà, on voit la main de Jésus déjà dans l'Ancien Testament, dans ce rocher qui donne de l'eau. Jésus pouvait dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc ce rocher qui donne de l'eau, c'est Christ. Et pourquoi il fallait le frapper? Parce qu'en fait, c'était une image de la croix. Il a été frappé. C'est Ésaïe 53, 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé? C'est le même mot, frappé pour le péché de mon peuple. Donc quand Moïse frappe le rocher, il y a une image prophétique ici qui concerne Jésus. Il sera frappé, pourquoi? Pour les péchés de mon peuple, jusqu'à nos péchés à nous. Annonce prophétique de la croix. Et notez bien ceci, c'est qu'il devait frapper une fois le rocher. Il devait le frapper une fois. Parce que la croix, elle est unique. Il n'y a pas besoin d'y revenir à deux fois. Romains 6, 10, il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc une fois, il fallait frapper. Ce détail est important. Pourquoi c'est tellement important? Parce que dans une autre circonstance, Dieu avait dit, tu parleras au rocher. Il avait dit, frappe pas, tu parleras au rocher. Mais Moïse était tellement en colère, à cause de la situation du peuple, il a pris son bâton et il a frappé le rocher encore. Il l'a frappé deux fois. Et aux yeux de Dieu, c'était un péché si grave, parce que, en fait, c'est le péché qui a fait que Moïse n'est pas rentré dans le pays de Canaan. C'est le fait d'avoir frappé à nouveau le rocher. Pour nous, on pourrait dire que c'est une désobéissance presque insignifiante par rapport à tout ce que Moïse a vécu. Il a juste désobéi une fois. Mais il a frappé deux fois le rocher. Et ça, prophétiquement, c'était comme passer deux fois par la croix. C'était donc aller au-delà du plan de Dieu et il allait au-delà du plan unique, une fois, pour toutes. Et il ne fallait pas frapper à nouveau le rocher, il fallait lui parler la deuxième fois. Donc tout cela était prophétique, on ne peut pas rajouter quelque chose à l'œuvre de la croix, elle a été faite une fois et une fois pour tout le monde. Et la dernière image, le dernier événement que je voulais mentionner, c'est le serpent d'airain. Donc, vous le retrouvez dans Nombre 21, verset 4 et suivant. Le peuple, en fait, toujours impatient, toujours à murmurer, ils étaient là le long du chemin, c'était difficile, et ils ne supportaient plus le chemin de Dieu, ils désiraient retourner en Égypte. Donc, Nombre 21, verset 5, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Entre parenthèses, ils avaient eu quand même la manne et le rocher. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous savez de quoi ils parlent quand ils disent cette misérable nourriture ? La manne de Dieu. C'est un péché de parler comme ça de la manne de Dieu. La manne de Dieu, c'est quand même la parole, c'est le pain de Dieu, cette misérable nourriture. Vous voyez que quand on est ingrat, quand on rumine, quand on murmure, on dit n'importe quoi. Il ne voit même plus la manne que c'est le pain de Dieu. Il ne voit plus le rocher, le sens spirituel, c'est Christ qui donne à boire. Il ne voit que les côtés négatifs. Critique, il juge, même tout ça, ça les dégoûte. Alors voilà ce qui se passe quand le cœur s'endurcit. Eh bien, il n'y a plus la louange, il n'y a plus la reconnaissance, il n'y a plus la joie, il y a les plaintes, il y a les gémissements, les grincements de dents. Et cela fait partie de notre vie. Dieu alors a envoyé des serpents venimeux pour piquer le peuple, pour mordre le peuple plutôt, afin de les punir, de les sanctionner à cause de leur péché. Et en fait, ils étaient en train de mourir, un petit peu comme si on est mordu par un serpent venimeux. Eh bien, il n'y avait pas d'antidote. Et le peuple, réalisant son péché, se repent, se tourne vers Dieu dans la prière en demandant pardon et demande à Moïse de prier Dieu pour une solution. Moïse prie, il reçoit de Dieu de fabriquer un serpent d'airain qu'il a mis sur une perche. Et Dieu avait dit, quiconque regardera le serpent d'airain sera guéri de ce venin qui était contracté. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, à part s'il y avait un Israélite qui s'entêtait, qui était têtu, qui disait « Bon, moi, je ne veux pas regarder le serpent, je veux m'en sortir tout seul », ben, il mourait, en fait. Mais tous ceux qui faisaient confiance à Dieu et qui obéissaient à sa parole, ils étaient guéris instantanément. Et Jésus reprend cet exemple dans Jean 3, 14. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert », c'est bien ce serpent d'airain qui a servi à la guérison du peuple. Il faut de même que le Fils de l'homme, c'est maintenant Jésus, soit élevé, ce n'est plus une perche, mais c'est la croix, afin que quiconque croit en lui, c'est ouvert à tout le monde, quiconque c'est vous, c'est moi, mais c'est tous les Toulousains, la France, le monde entier. La seule chose qui est demandée, c'est de croire. Un petit peu comme on demandait au peuple de regarder vers le serpent. Aujourd'hui, c'est de croire, puisqu'on ne voit pas. On ne le voit pas, Jésus, mais on peut croire. On peut croire qu'il est mort pour nos péchés. Eh bien, si vous croyez, quiconque croit, donc c'est la foi qui va tout déclencher. Si vous croyez en Jésus, ben, vous avez le cadeau de la vie éternelle, mais c'est par la foi que vous allez le recevoir. Donc, l'image des serpents qui ont piqué le peuple, c'est l'image du diable et des démons qui agissent et qui sèment le péché et la mort. Il y a toujours ces serpents-là, on ne les voit pas, mais ils sont invisibles. Et ils contractent toujours un venin, et c'est un venin mortel. C'est-à-dire que si vous êtes contaminé par le péché, en fait, le salaire du péché, ou la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Donc si vous n'avez pas l'antidote, vous allez mourir dans vos péchés. Et Jésus dit, ben, c'est moi l'antidote, en disant, quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Un petit peu comme, prenez l'antidote, faites-moi confiance. Croyez en moi et vous vivrez. C'est le regard de foi vers la croix. C'est ça qui va nous sauver du péché. On va prier quelques instants. Je ne sais pas si vous êtes dans le désert. Et en tout cas, Dieu ne vous a pas abandonné. Il y a toujours une nourriture. Cette nourriture, c'est la manne. C'est-à-dire, c'est le pain qui va nourrir votre cœur dans le désert et qui va vous permettre de traverser le désert. C'est un pain spirituel, c'est le pain de Dieu. Lisez la parole de Dieu tous les jours, méditez-la, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Il y a une eau d'un rocher spirituel, ce rocher c'est Christ. Dans le désert, il y a de l'eau. Cette eau, vous allez la trouver dans la personne de Jésus. Il va vous désaltérer votre âme. C'est une source d'eau vive. Et dans ce désert, il y a le pardon des péchés. Si vous regardez à Jésus qui est mort à la croix, ce n'est plus le serpent d'airain, ça c'est terminé, il a disparu. Mais la croix, elle est toujours d'actualité. Et dans le désert, il y a toujours la croix. Si nous venons à Jésus, bien il peut nous pardonner nos péchés, il peut nous donner un nouveau départ et il peut nous accorder la paix du cœur. Merci encore pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as mis à notre disposition dans le désert. Et nous croyons, Seigneur, que ces choses, Seigneur, tu les as placées pour chacun de nous, afin que nous puissions traverser ce désert, non pas en murmurant, non pas en nous plaignant des responsables, non pas en ruminant et en regardant toujours au passé, à ce temps d'esclavage que nous pensons toujours meilleur que la vie présente, mais nous voulons au contraire regarder devant comme Paul pouvait avoir les yeux fixés sur le but, regarder en avant et rejeter tout ce qui est en arrière, Seigneur, et courir dans la direction que tu nous as fixée, que tu nous as attribuée. Nous ne voulons pas avoir cette vision faussée de Dieu. Nous ne voulons pas avoir une vision de mépris des responsables que tu as établis. Nous voulons au contraire apprendre à bénir et louer Dieu dans le désert et faire monter notre reconnaissance et nos actions de grâce parce que tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu puissant. Oui, tu pourvois par la nourriture, la manne est là. Oui, tu pourvois par cette eau qui désaltère. Oui, tu pourvois par la croix qui efface tous nos péchés. Merci Jésus de le faire encore aujourd'hui et de multiplier, de faire grâce dans le nom de Jésus. Amen.